20h, c'est votre rendez-vous scientifique de la semaine. Aujourd'hui, nous parlons de la conquête spatiale au XXIe siècle dans l'atome de savoir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Paris.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris. On parle de science sans en faire un fromage.
Bonne année à toutes et à tous. Pour continuer à garder la tête dans les étoiles, même après les fêtes, l'équipe de l'Atome de Savoir vous propose de vous envoler vers les enjeux de la conquête spatiale. Pour nous aider à comprendre quelles sont les ressources convoitées par les nations du monde dans cet environnement, nous aurons l'aide de nos deux invités. François Poulet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes astronome à l'Institut d'astrophysique spatiale depuis 2002 et vous êtes responsable de l'équipe qui est en charge de l'exploration spatiale planétaire. Isabelle Sorbès-Verger, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe et directeur de recherche au CNRS et vous étiez chargé de recherche au centre Alexandre Coiré pour le CNRS. Je vous présente Jade qui nous accompagnera tout au long de cette émission.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
L'astronomie est aujourd'hui au centre du débat public pour le meilleur et pour le pire. Bien sûr, nous n'allons pas nous attarder sur les mythes et légendes des réseaux sociaux comme la bien célèbre Terre Galette Bretonne. Mais c'est en revanche un exercice auquel se soumettront Gaspard et Vadim qui décrypteront les idées reçues sur le nucléaire. Ce sera notre reportage en milieu d'émission. Et avant de nous quitter, nous retrouverons Lou qui nous expliquera pourquoi notre ordinateur fait des mises à jour.
Oh, quel spectacle hallucinant! C'est, comment vous le décrire? C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe, pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Dans le ciel, d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles, immobiles et glacées, sans ce scintillement qui, de la Terre, nous les fait paraître si vivantes. Je descends à présent les échelons de la fusée. Plus que 3, 2, 1, 0. Ça y est, j'y suis. Et voici maintenant Milou qui vient me rejoindre. Et voilà,
un extrait de Tintin, On a marché sur la Lune, qui ne nous rajeunit pas. Nous avons fêté il y a peu le 50e anniversaire du premier homme à avoir marché sur la Lune. Cet événement qui paraît si proche est déjà si loin. En effet, ce qui va peut-être plus vite qu'une fusée, ce sont les évolutions du monde spatial. Les réalisations techniques se sont succédées au fil du temps. La première sonde Voyager en 1977, la navette spatiale en 1981, la sonde Cassini en 1997, le rover Curiosity en 2011, et j'en oublie tant d'autres. L'espace a toujours émerveillé le grand public. Nous qui nous considérons comme grands sur Terre sommes en fait minuscules dans ce grand univers dont on ne connaît encore presque rien. Il reste toujours un terrain de recherche pour les scientifiques, mais c'est progressivement transformé en espace économique. Les enjeux sont nombreux dans le monde des satellites. On parle de télécommunications, de GPS, de technologies militaires qui effacent les enjeux scientifiques au profit d'enjeux beaucoup plus terrestres. L'espace est un lieu incontournable pour les États et les grandes entreprises. Le développement de SpaceX comme étant une entreprise privée faisant concurrence aux entreprises publiques du monde entier dans le lancement de satellites et de capsules est une véritable révolution. Le rêve fou de voir le drapeau de son pays dans l'espace attire aussi de plus en plus de nations. Cette ivresse qui était avant réservée aux deux grandes puissances de la guerre froide touche maintenant des États comme la Chine, l'Inde et Israël. Nous allons donc voyager au cœur des plus belles étoiles pour savoir quels sont les enjeux primordiaux pour les grandes nations qui découlent de la nouvelle conquête spatiale.
It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use. This time, we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars and perhaps someday to many worlds beyond.
C'était un discours de Donald Trump qui annonçait une reprise de la course vers la Lune et qui peut se traduire par « C'est un pas important d'envoyer de nouveau des astronautes américains sur la Lune pour la première fois depuis 1972 pour une exploration et une exploitation à long terme. Cette fois, il ne s'agira pas seulement de planter notre drapeau et de laisser notre empreinte. Nous établirons une base pour une éventuelle mission vers Mars et peut-être un jour vers de nombreux autres mondes au-delà. » Alors maintenant, je me tourne vers mes invités. Alors, selon vous, donc on va parler un petit peu de l'espace proche et du développement des lanceurs privés dans un premier temps. Selon vous, François Poulet, avec le développement des lanceurs privés, les États sont-ils les seuls acteurs de l'espace ?
Non, tout à fait, effectivement. Depuis quelques années, il y a un développement de lanceurs privés, d'entreprises privées qui souhaitent s'impliquer de plus en plus dans l'exploration spatiale et notamment au niveau des lanceurs. Alors, il faut savoir quand même que ces entreprises ne sont issues en partie de personnes qui sont d'une certaine manière philanthropes, mais ça a ses limites, c'est la philanthropie vu les coûts de l'exploration spatiale. Et donc, il faut savoir quand même que l'essentiel du budget provenant de ces missions provient essentiellement, en fait, de la NASA. Donc, il faut savoir, ils ont des énormes contrats. Et c'est aussi une manière économique de modifier le marché des lanceurs, parce qu'on parle quand même essentiellement des lanceurs, parce que c'est quand même un point clé de ces nouveaux acteurs. Qui donc bouleverse clairement, effectivement, le monde des lanceurs. Et au-delà de ça, effectivement, le monde de l'exploration spatiale, et donc de l'exploration des objets qui sont proches de la Terre, tels que Mars et Jupiter et Saturne.
La NASA participe grandement donc aux ressources de ces lanceurs privés. Et donc, du coup, on peut se demander comment va s'opérer la collaboration entre ces organismes spatiaux privés et ceux étatiques.
Alors, pour l'instant, ça, c'est des collaborations qui sont très proches. Enfin, ce que j'en sais, je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'ai quand même eu quelques interactions avec certains de ces acteurs privés. Effectivement, il y a une collaboration très proche au niveau technique. Mais ceci dit, la NASA a quand même laissé une partie de ses connaissances, en tout cas une partie du développement, ils ne le maîtrisent pas. Donc c'est sûr que pour l'instant, c'est essentiellement des lanceurs à but privé, à but pour lancer des satellites commerciaux. Là, quand ils envisagent également d'envoyer des hommes. Donc là, on passe à un autre système de sécurité en termes de lanceurs, en termes de systèmes spatiaux, orbitaux. Et donc moi, j'attends de voir quand même la suite de ces événements, puisque pour l'instant, c'est clair, ça a permis de tirer vers le haut, qu'à le dire, l'exploration à court terme. Mais j'attends de voir si jamais il y a un accident, par exemple, utilisant un lanceur privé et qui amène à des morts d'astronautes américains. J'attends de voir la réaction, en fait, générale du public.
Isabelle Sorbès-Verger, vous partagez le même point de vue ?
Oui, c'est-à-dire que l'idée de créer des acteurs privés dans le domaine du lancement spatial, c'est une très vieille idée aux États-Unis, dont, si vous voulez, l'ensemble de l'appareil d'État considère que les investissements publics doivent, au final, générer de l'activité économique et donc servir les entrepreneurs privés. Si bien que SpaceX et Elon Musk est quand même la plus grosse société aujourd'hui, même si on voit son concurrent Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui commence aussi à avoir un programme assez cohérent. Pour eux deux, d'abord, le développement, la R&D de leur lanceur a été fait sur fonds publics dans le cadre des concours que la NASA mettait en place. Donc vraiment pour remplacer les systèmes de transport NASA, hein, qui était la navette, par des systèmes de transport privé. Et ensuite, c'est quand même assez intéressant de noter que Elon Musk, par exemple, a fait un procès au Pentagone parce que le Pentagone avait offert un contrat de lancement au vieux, on va dire, au spatial traditionnel américain et que, au titre même privé, c'était amusant parce que la manière dont la plainte a été déposée par Elon Musk, c'est de dire, mais moi, en tant que contribuable, il existe un lanceur moins cher et c'est le mien. Or, vous avez donné un lanceur plus cher et donc je vous intente un procès. Ce procès, il l'a gagné. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ces grands acteurs du spatial privé américain, ils sont complètement différents, effectivement, dans la relation qu'ils ont avec l'administration. C'est-à-dire que c'est plus la NASA qui va déterminer les caractéristiques techniques des systèmes. Ils vont eux-mêmes mettre la main à la pâte, mais en même temps, bien évidemment, ils vont continuer à travailler de manière très proche avec leurs clients institutionnels, la NASA et le département de la Défense, en sus des clients commerciaux classiques qu'ils espèrent pouvoir récupérer sur le marché international.
Et est-ce que vous pensez qu'ils ont vocation à seconder les États, Monsieur François Poulet ?
Je ne pense pas, en fait. À court terme, en tout cas, dès qu'on veut aller faire de l'exploration sur Mars, je vous dis, je suis à reste sceptique. S'il y a un accident qui se produit, on a vu les répercussions que ça a pu avoir et que notamment l'opinion publique n'accepte de moins en moins de risques. Donc si un jour il y a un accident avec un lanceur privé, j'attends de voir la réaction du Pentagone, enfin de la NASA, etc. Je pense que ça peut remettre en question très rapidement ce schéma ou cet environnement de lanceurs. Alors moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à cet environnement de ces nouveaux acteurs. Il y a aussi quand même des points positifs, même très positifs, c'est qu'on voit arriver en fait sur le marché, notamment sur les marchés de développement des satellites, des tout petites entreprises qui ont plein d'idées très intéressantes de miniaturisation, de systèmes orbitaux. Et pour nous, qui font de la science à but scientifique, on trouve que ces acteurs sont très intéressants. Ils arrivent vraiment à avoir un chemin assez direct, contrairement à des agences spatiales telles la NASA ou l'ESA, l'agence spatiale européenne avec qui je travaille beaucoup, où tout est très cadré, très encadré. C'est même dit, parfois, ça manque beaucoup de souplesse. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir arriver ces nouveaux petits acteurs, y compris français d'ailleurs, pas seulement américains.
Et donc du coup, ces petits acteurs, notamment français, comment font-ils pour se développer ? Est-ce qu'il y a une aide de l'État pour ces petits acteurs ?
Alors non, ils travaillent vraiment, ce que j'en connais, enfin j'en connais quelques-uns, c'est des élèves ingénieurs qui sortent de leurs écoles, qui sont passionnés par l'espace et qui développent par eux-mêmes, donc ils créent des sous-systèmes, vraiment très, par exemple un système électronique ou un système de guidage. Et à partir de là, ils essaient de contacter, de proposer ça sur des appels d'offres qui peuvent être gagnés. Donc ils ont peu de... Après, l'essentiel quand même en tout cas pour l'exploration spatiale scientifique, évidemment les acteurs principaux, les financements principaux proviennent des agences. Évidemment ces systèmes orbitaux peuvent également être appliqués à des entreprises à but commercial.
Madame Isabelle Soubès-Verger, vous voulez rajouter quelque chose ?
En fait, effectivement, cette évolution, elle touche beaucoup le monde scientifique et en partie les télécommunications ou par exemple des systèmes de détection qui vont jouer aussi dans la météorologie. Mais ça, c'est un phénomène et c'est très bien général. Hein. On retrouve en Inde des petites start-up qui développent aussi ce genre d'activité. On en trouve aussi en Chine. Bon, leur statut est un petit peu plus compliqué. Elles restent quand même très proches des acteurs scientifiques et des agences. Et quelque part, ça va être, je dirais, des épiphénomènes. C'est-à-dire que ces sociétés, elles vont effectivement innover, découvrir de nouvelles choses, proposer des nouvelles démarches, et puis, tôt ou tard, si ça se passe bien, elles seront réabsorbées dans une entité plus grosse. Et c'est d'ailleurs pour les fondations de ces start-up, les fondateurs de ces start-up, s'ils le peuvent, un idéal. Hein. Donc là, on est sur une évolution qui est intéressante du spatial, parce que la technologie actuelle permet de faire de beaucoup plus petits satellites dans un délai beaucoup plus court et de manière beaucoup plus adaptée en fonction des différents besoins et en étant capable de faire évoluer à la fois le produit tout en gardant la même plateforme. Donc là, c'est vraiment plutôt un nouveau schéma d'utilisation de l'espace avec quelques problèmes derrière, parce que si vous imaginez que vous allez lancer des centaines, voire des milliers dans le cadre des constellations de satellites de télécom de ce genre de satellites, ben, vous allez créer des problèmes potentiels de collision. Vous allez raviver la question des débris, à savoir en fin de vie de ces systèmes, que vont-ils devenir, combien de temps vont-ils mettre pour replonger dans l'atmosphère. Bref, il y a toute une nouvelle problématique. En 2018, il y a eu à peu près 400 satellites lancés et il y en a eu 200 qui pesaient moins de 150 kilos.
Donc on est vraiment sur une toute autre échelle en fait.
En même temps, d'un point de vue commercial, ces satellites-là, ils ne rapportent pas d'argent pour être aux lanceurs, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que la société qui commercialise les lancements pour les tout petits satellites, ça se fait sur du surplus de charge utile, en gros dans la masse qui reste au moment de la satellisation. Quand vous êtes dans les constellations comme les constellations de télécom, là c'est différent puisque en fait c'est un système compliqué, phasé, etc. Et où là effectivement vous payez pour le lancement. Mais les tout petits, les CubeSats, ça peut être moins d'un kilo, ça peut même être quelques centaines de grammes.
Alors on va s'écarter un petit peu des grosses entreprises qui ont quand même un objectif économique, un objectif de rentabilité derrière le développement de ces lanceurs, pour s'intéresser un peu à la Lune, parce que beaucoup de nations, de grandes nations en reparlent, et donc la question principale qui nous vient à l'esprit, monsieur François Poulet, c'est pourquoi reconquérir la Lune ? Est-ce qu'il y a un objectif uniquement scientifique, ou est-ce qu'on peut imaginer une valorisation économique derrière cette conquête ?
Alors, ce que j'en connais, c'est que c'est essentiellement à but non scientifique, en fait, cet intérêt nouveau pour la Lune. D'autant plus, ce qui se justifie, puisque, si vous voulez, on a, donc, dans les congrès scientifiques, il y a eu pas mal de discussions suite aux annonces de Trump et d'autres, et de la NASA également, hein, parce que ça vient aussi de, pas seulement de lui, hein, c'est ses conseillers qui poussent pour développer, en fait, une plateforme autour de la Lune et sur la Lune. Il faut savoir que nous, on n'est pas très intéressés en tant que scientifiques par la Lune. On y est déjà allé, on a des retours d'échantillons, on a des centaines de kilogrammes. On connaît bien la formation, même s'il reste encore certains aspects qui restent inconnus, notamment la structure interne. Mais clairement, l'objectif, là, ce n'est pas scientifique. Et d'ailleurs, à tel point que, je vous dis, ils ont beaucoup de masse. Enfin, a priori, pour les nouvelles missions, là, ils auront beaucoup de masse. Ils demandent aux scientifiques de placer des instruments. Et ils ont du mal à trouver. Il y a peu de personnes, finalement, qui répondent. Donc on voit, enfin je laisse répondre ma collègue sur cet aspect-là, mais en termes scientifiques, l'intérêt reste faible.
Madame Isabelle Souarez-Verger, on vous écoute sur la question.
C'est-à-dire que effectivement, la Lune, c'est une destination sur laquelle on a beaucoup hésité depuis il y a 50 ans qu'on a posé le pied de l'homme et qu'effectivement, il y a eu une nouvelle étape, peut-être dans cette manière qu'a l'homme de se déplacer, d'aller au-delà de la planète et de son environnement naturel. Et par exemple, Obama, lui, avait décidé de ne pas faire le programme de retour vers la Lune qu'avait décidé Bush Junior. D'ailleurs, il l'avait décidé sans mettre aucun financement derrière. Obama mettant en avant le fait que les grands défis du monde contemporain, ils étaient ailleurs et qu'il fallait plutôt penser la recherche et la technologie et qu'on n'allait pas refaire ce que lui avait vu quand il était petit, lorsque son grand-père lui avait montré la Lune en lui disant qu'il y avait un Américain qui était en train de marcher dessus. Donc là, Trump revient vers la Lune, la NASA revient vers la Lune. C'est aussi parce que dans l'exploration habitée, eh bien finalement, il n'y a pas beaucoup de destinations. On a une station spatiale internationale qui arrive en fin de vie, hein, qui devrait théoriquement cesser ses activités plus ou moins autour de 2025. Le rêve des astronautes, et sûrement pas celui des scientifiques, ce serait qu'un homme aille marcher sur Mars, mais ça, c'est très coûteux, c'est très compliqué, on ne sait pas le faire, il n'y a pas de décision politique, il n'y a aucune volonté d'y aller en l'état actuel des choses. Donc finalement, aujourd'hui, quand vous pensez exploration habitée, qui est quand même une des raisons d'être de la NASA, hein, qui a été créée pour le programme Apollo, il n'y a pas finalement beaucoup d'autres destinations que de revenir sur la Lune. Et même là, ce qui est intéressant, pour l'instant, on met une station en orbite autour de la Lune, en pensant qu'on pourra faire descendre des hommes et remonter et avoir un séjour temporaire sur la Lune. Alors, les applications économiques ou industrielles, très honnêtement, si c'est pour ramener des choses sur la Terre, ça n'a pas de sens, parce que l'énergie qu'il vous faut pour envoyer des choses dans l'espace ou sur la Lune, c'est à peu près la même qu'il vous faut pour les ramener. Donc franchement, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça veut dire, dans ces cas-là, que vous vous installez dans l'idée d'une colonisation de l'espace avec, effectivement, une activité permanente, humaine, alors qui peut être autour de la Lune, qui peut être ailleurs. Il y a des gens qui parlent des points de Lagrange. Bon, mais mettre un homme à 1,5 million de kilomètres, c'est quand même un petit peu loin pour les dessertes. Bon, donc si vous voulez, on a quand même beaucoup d'ouverture. Là, l'idée, c'est peut-être plus d'apprendre, c'est-à-dire quels sont les problèmes concrets qu'on va rencontrer si effectivement on imaginait de mettre des hommes et de faire vivre des hommes en dehors de la Terre et ailleurs que dans une station.
Donc du coup, si je comprends bien, la Lune, ce serait plutôt un prototype pour ensuite conquérir d'autres espaces et d'autres planètes bien plus lointaines. Et donc du coup, si on reprend ce que M. Trump a dit donc, sur l'installation d'une base permanente sur la Lune, qu'est-ce qu'on en pense d'un point de vue technique ?
Isabelle Souarez-Verger.
Oui, le problème, c'est qu'une base permanente sur la Lune, ça coûte très très cher. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir comme budget derrière pour faire autre chose ? C'est peut-être un peu ça aussi le problème concret. Et puis, c'est pas pour partir de la Lune pour aller sur Mars, effectivement, ça peut être plus simple. Mais en fait, ça reste quand même très compliqué. Et puis, demeure toujours le grand problème qui est, une fois qu'on est sur Mars, on fait quoi ? On survit comment ? Et à quoi ça sert d'y envoyer des hommes ? Donc, très honnêtement, cette histoire de l'exploration habitée, c'est vraiment lié à la manière dont les hommes, alors à la fois, je dirais, les communautés des ingénieurs, hein, celle des hommes politiques et celle du public, perçoit cette idée que finalement, on peut sortir de notre planète et qu'on peut aller faire des choses à l'extérieur. Aujourd'hui, on n'a pas de rationalité absolument évidente. Mais en revanche, on commence à voir poindre, et en ce sens c'est intéressant, toute une série de problèmes qu'on aura plus tard. Par exemple, quel serait le statut des installations sur la Lune ? À qui appartiendrait-elle ? Aujourd'hui, le traité de 67, il dit rien de très précis sur la la Lune, mais en gros, on n'a pas le droit de s'approprier l'espace, qui est un bien commun de l'humanité. Donc, dès lors que l'on installe des hommes, des machines, des équipements sur la Lune, on va dire qu'ils appartiennent à l'État qui les a installés, c'est d'accord, mais ensuite, quid des relations et des dommages éventuels par rapport à aux installations appartenant à d'autres pays, etc., etc. Donc, on ouvre, et en ce sens, effectivement, cette démarche d'aller sur la Lune a du sens, on ouvre toute une série de grandes questions, aussi bien techniques que politiques que juridiques. Bon, celles qu'on n'ouvre pas trop, c'est les questions scientifiques, à part la question de la préservation, de la durabilité et éventuellement des problèmes de contamination.
Monsieur François Poulet, c'est ce que vous pensez aussi ?
Oui, comme je l'ai dit, je pense que les intérêts scientifiques sont pas du tout c'est pas ça qui mène en fait à ce nouveau développement. Alors, on a pas mal parlé en fait d'utiliser ce nouveau système comme une porte d'entrée pour l'exploration spatiale martienne, y compris humaine. C'est pareil, je demande à voir. Je pense que c'est reste quand même plus simple d'aller directement sur Mars depuis la Terre. Tous les systèmes actuels partent de la Terre à court terme. Enfin, quand je dis à court terme, c'est dans les 10 ans. Retour d'échantillons prévus martiens, on part direct de la Terre. Donc, j'ai du mal à voir comment on va pouvoir partir de la Lune. Et comme me disait ma collègue, le fait d'installer, on appelle ça un gateway, cette porte d'entrée pour le reste du système solaire, ça va absorber tous les fonds. Donc, il ne restera plus grand-chose pour le reste. Donc, je ne sais pas. Pour moi, j'ai du mal à m'intéresser, à me motiver à ce projet.
Mais donc, du coup... au-delà même de la conquête de l'espace plus lointain, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà nettoyer notre espace proche, avec notamment toute la question des débris, et notamment savoir quel serait l'enjeu des débris aujourd'hui ?
François Poulet.
Alors, il y a effectivement un système d'observation des débris spatiaux. Ça peut vite devenir un problème majeur, notamment pour des gros systèmes de satellites. Donc effectivement, il y aura à terme, je pense, des programmes pour à la fois pour les suivre et pour essayer d'éviter des accidents. Je ne sais pas quels sont exactement, je peux laisser répondre ma collègue, parce que je ne connais pas exactement quels sont les programmes pour nettoyer l'espace proche.
Les programmes pour nettoyer l'espace proche, je dirais que c'est d'abord d'essayer d'éviter de multiplier les débris. C'est quand même la première, et il y a un groupe interagence qui existe depuis déjà très longtemps et qui réfléchit par exemple quand on satellise un objet, la coiffe s'ouvre et là c'est une explosion, vous avez des petits bouts de boulon, des trucs qui partent partout et ça crée des débris. Vous avez ensuite des satellites en fin de vie, et bien a priori, à part ceux en orbite géostationnaire qui ont un moteur et qui permet de les envoyer encore plus haut dans l'espace, c'est-à-dire de retarder encore plus le problème. Pour les satellites en orbite basse, eh bien, on laisse finalement la gravité jouer son rôle et tout compte fait, l'attraction de la Terre attire progressivement le satellite et le satellite finit par brûler dans l'atmosphère. Mais ces satellites-là, ils sont plus manœuvrants et donc on le voit bien avec la Station Spatiale Internationale, ça oblige parfois à des manœuvres d'évitement pour ne pas être heurté par un débris et ça, c'est coûteux en énergie, sachant que l'énergie, on ne sait pas la produire dans l'espace pour les déplacements des satellites. Donc finalement, la grande question des débris, c'est faire en sorte que ces nouveaux satellites qu'on lance, eh bien, ils soient capables de disparaître rapidement. Alors on imagine de déployer des voiles qui feraient force de frottement et qui les feraient plonger plus rapidement. Alors après, il y a des projets d'industriels, on imagine des grands treillis dans lesquels les débris, cette fois-ci pas les satellites, mais les débris pourraient venir se planter et puis ensuite on ferait brûler l'ensemble. Mais de toute façon, il y a quand même l'air de rien un petit problème juridique qui est qui caractérise les débris, c'est-à-dire qui décide que tel objet dans l'espace est un débris, qui paie pour récupérer cet objet, à qui éventuellement on le facture. Et là, on retombe sur les problèmes du droit spatial, à savoir qu'aujourd'hui, l'usage de l'espace, il est libre, il est ouvert à tous, et que la surveillance de l'espace, c'est-à-dire la capacité d'identifier l'appartenance des débris actuels, il n'y a que les États-Unis qui la possèdent, je dirais avec une très grande précision, de l'ordre de 50 cm peut-être, voire moins, là où les Russes ont quand même une structure de base qui est importante, mais où les Européens ou les Chinois aujourd'hui n'en sont qu'à construire les premières briques.
Je vous remercie. Alors nous allons maintenant faire une petite pause pour quitter le monde du très grand et aller dans le monde du très petit. attention jeune public, blague en approche, quelle autre émission que l'Atome de Savoir pourrait vous parler des idées reçues sur le monde du nucléaire? C'est tout de suite dans le reportage de Gaspard et Vadim.
L'Atome de Savoir, vous en reprendrez bien une part?
Les nouvelles technologies, c'est bien joli, mais ça nécessite de l'énergie électrique pour fonctionner. De plus, pour réduire les gaz à effet de serre, on construit de plus en plus de voitures qui roulent, je vous le donne en mille, à l'électricité. Pour la produire, cette énergie électrique, on utilise surtout la fission nucléaire, une méthode plutôt mal vue en France, car elle représente un danger pour ceux qui habitent autour des centrales, et pour l'environnement, bien sûr. Alors on reproche beaucoup de choses à l'industrie nucléaire, et notre discussion avec Marc Troan, ingénieur en neutronique chez Framatome, anciennement Areva, va casser quelques préjugés. Quand on parle du nucléaire, on pense d'abord à la pollution que cela engendre. Mais comment ça pollue tout ça ?
Pour la pollution, on parle souvent de deux choses au nucléaire. Donc il y a tout d'abord tout ce qui est gaz à effet de serre, donc le CO2 par exemple, et les déchets nucléaires radioactifs. Pour le gaz à effet de serre, il y a un rapport du GIEC, qui est le groupe d'expertise intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a montré qu'en fait, toute l'industrie nucléaire pollue autant que les éoliennes, par exemple. Il y a très peu de CO2 qui est émis par les centrales, et principalement, c'est la fabrication des assemblages et choses comme ça qui émettent un peu de gaz à effet de serre. Pour les déchets radioactifs, c'est tout ce qui sort des centrales, donc les assemblages usagés, choses comme ça. Voilà. Si on raisonne purement en termes de CO2, on ne peut pas dire que le nucléaire est polluant. Et après, pour les déchets, c'est la chose un peu plus complexe. Alors, la définition vraiment théorique, c'est tout ce qui contient de la radioactivité. Alors, contient, c'est plutôt pas très physique, mais engendre, en fait, plutôt de la radioactivité. Donc, en fait, on peut distinguer finalement deux types de catégories. C'est tout d'abord les plus naturels, si je peux dire, c'est les assemblages de centrales qui sont usés, donc qu'il faut retraiter. Donc ça, c'est vraiment des déchets radioactifs. Après, il y a tout ce qui rentre dans une zone nucléaire qui peut être considéré comme un déchet et qui ne peut pas être réutilisé. Donc il faudra traiter. J'ai quelques chiffres. Par exemple, on a par an, par personne en France, 2 kg de déchets radioactifs qui sont produits pour notre consommation actuelle. Et en parallèle, on a 100 kg par an, par personne aussi, de déchets non radioactifs mais très toxiques. En fait, on voit que le nucléaire engendre finalement très peu de déchets en quantité par rapport à la production électrique qui est réalisée. Et pour les déchets, on a une agence qui s'appelle l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui gère justement le traitement de ces déchets, par exemple, avec des usines comme la Hague, le projet CIGEO, choses comme ça. Alors, les déchets, en fait, radioactifs, les plus dangereux, ce qu'on appelle les HAVL, donc les hautes des déchets qui ont une haute activité, donc qui font beaucoup de désintégration par seconde, et qui ont une durée de vie très longue, plusieurs millions d'années. À la sortie de la centrale, on les met dans des colis, dans des châteaux, dans plomb. Après, ils sont retraités et après, ils sont stockés. Donc, en fait, on a une traçabilité dès le début de la création du déchet, entre guillemets, jusqu'à son stockage. Donc, en fait, ça ne représente pas de danger pour les habitants français, du moment que la gestion du déchet est réalisée correctement. Alors, le stockage, après, il est réalisé de façon assez différente selon le colis. Donc, on peut avoir des stockages de surface. Donc notamment au centre industriel de regroupement et entreposage des déchets qui est dans l'Aube, qui était dans la Manche avant. Donc ça, c'est pour les déchets qui ont des faibles activités et surtout des vies courtes. Et pour le stockage des déchets les plus dangereux, là, les HAVL et les MAVL, donc haute activité et moyenne activité à vie longue. Eux, ils sont stockés pour l'instant à La Hague, donc qui est une usine unique au monde, finalement, en France, qui permet de traiter ces déchets qui sont vitrifiés. Donc, ils sont mis dans une matrice pour un stockage donc pour plusieurs millions d'années.
C'est-à-dire une matrice,
ouais. Alors, c'est un procédé chimique où on vient figer, après avoir dissous les assemblages coupés, dans une matrice un peu comme en verre. Ça ressemble à du verre, finalement. Après, ils sont mis dans des colis en acier inoxydable et on les stocke dans des puits. Et donc pour l'instant, c'est à la Hague, mais là, on est en train de construire à Cigéo un stockage en couche géologique profonde. En fait, c'est un endroit où on sait que le terrain est très stable, donc on n'a pas soumis à des mouvements géologiques importants, vu que ce sont des colis qui ont plusieurs millions d'années, des déchets qui ont une durée de vie de plusieurs millions d'années. Donc sera, à terme, on va les stocker là-bas. Après, en proportion, c'est vraiment très très faible. On n'a pas beaucoup de déchets très dangereux.
Certes, le nucléaire pollue et à très long terme, mais les énergies renouvelables ne sont pas vraiment au point, puisqu'elles polluent aussi et qu'elles s'appuient pour certaines sur des ressources non renouvelables à notre échelle. Et en plus, elles coûtent plus cher. Donc oui, on continue à construire des centrales et à faire de la recherche en nucléaire, mais aussi en renouvelable. D'ailleurs, là-dessus, on est en avance ou en retard, nous, la France ?
Pour le nucléaire, on peut considérer qu'on est vraiment en avance par deux choses. Déjà, notre expérience. On exploite des centrales depuis 30-40 ans. Et il y avait déjà un effort de recherche, donc il y a presque un demi-siècle. Et on a beaucoup de réacteurs. Donc on a vraiment une forte expertise pour nos types de réacteurs. De plus, on arrive à les vendre à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on construit des réacteurs en Chine, au Royaume-Uni par exemple. Donc des réacteurs modernes, les EPR par exemple. En Chine, on a deux réacteurs EPR qui sont en fonction, qui sont déjà raccordés, qui produisent de l'électricité. Et c'est les réacteurs les plus puissants au monde. Et en Angleterre, c'est pareil, le projet avance bien. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt en avance. Deuxième point, c'est la recherche. Bien qu'on soit vraiment à la pointe dans notre type de réacteur, on ne ferme pas la porte à d'autres types de réacteurs. Donc il y a le commissariat à l'énergie atomique qui est aux énergies renouvelables, le CEA, qui est très reconnu dans le monde et qui fait des articles de recherche sur d'autres types de réacteurs, réacteurs à fusion par exemple. Donc on a le projet international ITER dans le sud sur ce type de réacteur. Puis il y a d'autres types de réacteurs dans la filière qui sont aussi en développement. Et si on raisonne un peu plus globalement sur est-ce qu'on est en avance ou en retard en termes d'énergie, on peut dire qu'on est, pour moi, de mon point de vue, on est plutôt en avance puisque la recherche est quand même pas axée que sur le nucléaire. Dans le CEA, il y a aussi énergie renouvelable, donc l'éolien, le solaire. Donc en fait, le but, c'est d'avoir un mix énergétique qui soit cohérent. Donc avoir une base nucléaire qui permet d'avoir une énergie électrique constante, plus du renouvelable qui est plus fluctuant, mais qui respecte aussi l'environnement. Et si on peut ajouter une comparaison avec l'Allemagne, par exemple, qui ont fait le choix d'arrêter le nucléaire il y a quelques années, on voit qu'en fait, c'est pas forcément le bon choix actuellement, puisqu'ils ont des émissions en termes de CO2 qui sont colossales à cause des centrales à charbon qui tournent. Et il n'y a pas que le charbon, il y a aussi le gaz. Où est-ce qu'on achète le gaz ? Donc, d'un point de vue écologique, c'est pas forcément très cohérent.
Arrêter la fission nucléaire, ça arrivera certainement un jour, mais c'est pas demain la veille. Nous avons d'une part des progrès à faire en renouvelables, et d'autre part, les gaz à effet de serre engendrés par l'industrie nucléaire ne sont pas importants au point de devoir la stopper maintenant. L'idée à moyen terme est d'arriver à un équilibre énergétique entre le renouvelable et le nucléaire. Alors on aurait pu vous parler des problèmes environnementaux causés par notre besoin en énergie pendant des dizaines de minutes, mais ce sera pour une autre fois.
C'était le reportage de Gaspard et Vadim qui portait sur les idées reçues dans le domaine du nucléaire. Si vous nous rejoignez, vous écoutez l'Atome de Savoir sur Radio Campus Paris et nous allons commencer la deuxième partie de notre débat sur l'espace, une zone scientifique, économique et politique. Nous sommes avec Monsieur François Poulet, vous êtes astronome à l'Institut d'astrophysique spatiale depuis 2002 et vous êtes responsable de l'équipe qui est en charge de l'exploration spatiale planétaire. Mais nous sommes aussi avec Madame Isabelle Sorbès-Verger. Vous êtes géographe et directeur de recherche au CNRS et vous étiez chargé de recherche au centre Alexandre Coiré pour le CNRS. Dans notre première partie, Dans notre première partie, nous nous étions intéressés aux enjeux de l'espace proche, mais à présent, nous allons prendre un peu de recul pour aller voir plus loin que notre belle planète bleue.
5, 4, 3, 2, 1.
I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are, making last preparations for the long journey.
C'était un extrait du film Proxima d'Alice Winocourt qui nous dit « Je n'ai jamais pensé qu'un jour, je dirais, c'est le dernier voyage avant Mars et maintenant nous y sommes, faisant les dernières préparations avant le grand voyage. » Alors avant de commencer cette deuxième partie, une question un peu générale. Est-ce que tous les États sont intéressés par l'espace lointain, Monsieur François Poulet ?
Tous les États, déjà il n'y en a pas tant que ça qui sont intéressés par le spatial, ou en tout cas qui ont les moyens de pouvoir être impliqués dans l'exploration spatiale. Ça dépend de quel objet dont on parle. C'est certain que Mars reste quand même un objectif majeur pour beaucoup d'agences, mais également pour l'humanité de manière générale. Il faut même dépasser ce cadre-là pour moi. Donc effectivement, alors il y a de plus en plus quand même de missions spatiales qui sont en orientation vers Mars. Donc il y a actuellement, comme vous l'avez indiqué au début de votre mission, il y a des rovers martiens américains, mais il y a également plusieurs satellites, y compris européens, qui sont autour de Mars. Il y en a deux, deux de la mission de l'Agence spatiale européenne. Et il y a également un projet japonais d'aller sur Mars. Et il faut savoir aussi que les Chinois, normalement, ont prévu d'envoyer un rover l'année prochaine, également l'ESA. Donc on voit qu'effectivement, qui vient va avoir plusieurs missions spatiales vers Mars.
Madame Isabelle Sorès-Verger, c'est votre avis aussi ?
Oui, c'est-à-dire que Mars, c'est une destination à la limite relativement proche qui intéresse à la fois les scientifiques et les ingénieurs par les défis qu'elle pose. Alors oui, il y a tous les pays qu'évoquait François Poulet. Il y a même des pays comme les Émirats Arabes Unis qui ne sont pas encore une puissance spatiale, qui avaient initialement annoncé qu'ils allaient lancer par leurs propres moyens un satellite sur Mars. Bon, là, on ne voyait pas très très bien quel type de lanceur ils allaient être capables d'avoir et d'où ils allaient tirer, parce que quand même, il y a parfois des petits problèmes de géographie terrestre avant de faire du spatial. Mais finalement, ce sera un lanceur japonais qui va emmener leur engin, mais il y aura une mission des Émirats Arabes Unis. Et c'est très intéressant parce qu'elle est présentée comme étant l'occasion de restaurer la grandeur de la science arabe et de redonner confiance au monde arabe dans ses capacités scientifiques et sa capacité à se projeter dans le monde de demain. Donc ça c'est intéressant. Vous avez aussi l'Inde qui a réussi à faire une mission autour de Mars, ce qui était un exploit. Elle était d'autant plus soulignée qu'elle a fait ça avant la Chine ayant initialement prévu de faire envoyer par les Russes une mission, bon, et cette mission a échoué. Ça, malheureusement les Russes avec Mars n'ont pas beaucoup de chance et les Européens ont eu quelques problèmes aussi avec ça. Donc il y a la destination martienne et puis il y a quand même peut-être ce qui fait encore plus rêver, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, des destinations comme les astéroïdes avec les grandes missions japonaises dont je laisse François Poulet parler.
Ah, effectivement, je peux rebondir sur Isabelle. Effectivement, il y a une mission Hayabusa 2, je suis impliqué dans cette mission, qui vient de quitter en fait l'astéroïde de Ryugu. Alors il faut quand même distinguer ce genre de missions, c'est des missions qui sont relativement faciles, entre guillemets évidemment, parce que c'est quand même un vrai exploit d'aller à la rencontre d'un astéroïde, le suivre, le survoler, de le caractériser, de collecter des échantillons et de les ramener sur Terre. Donc là, on est dans cette phase-là de retour d'échantillons terrestres. Mais pour revenir à Mars, il faut aussi distinguer les deux types de missions. Les missions qui sont en orbite autour de Mars, qui caractérisent Mars, qui caractérisent son atmosphère, sa surface, et qui servent aussi de réseau de télécommunication avec justement des plateformes qui sont au sol. Et ça, pour l'instant, il y a très peu de pays qui sont capables d'amener quelque chose sur Mars. Essentiellement, ce sont les Américains, les seuls qui ont vraiment réussi à amener quelque chose dans un bon état, on va dire, à l'arrivée. Donc on voit que là, il y a deux aspects technologiques assez différents. Il y a plusieurs pays qui sont capables, qui ont été capables d'envoyer des satellites autour de Mars. Par contre, atterrir sur Mars, ça reste encore compliqué. Et c'est vrai que quand on parle de l'exploration spatiale par l'homme de Mars, on voit bien que c'est là en fait le problème. C'est-à-dire comment atterrir sur Mars et comment les ramener sur une orbite basse de manière à repartir sur la Terre. Donc il faut distinguer ça. Évidemment, là, de plus en plus, l'exploration spatiale martienne, c'est vers une orientation, ce qu'on appelle une orientation in situ, l'exploration in situ, à savoir se poser sur Mars et explorer par des moyens robotiques cette planète.
Donc là, par rapport à ce que nous dites, on comprend que ce sont quand même des raisons assez scientifiques d'aller sur Mars, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quand même d'autres raisons, notamment avec tout cet engouement pour cette planète par toutes les nations finalement.
Monsieur François Poulet.
Tout à fait. Alors l'essentiel des missions sont un objectif scientifique. 90% de l'objectif est scientifique. Alors évidemment, ça prépare aussi. Donc si je continue dans cette direction-là, donc il y a plusieurs missions. Normalement, il y a trois rovers qui vont partir l'année prochaine. Il y a un rover américain, un rover européen, un rover chinois qui vont atterrir sur différentes zones de Mars. Très différentes les unes des autres d'ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant parce que la planète est une planète extrêmement diverse en termes de géologie, en termes de composition, et on a vraiment envie de connaître ces différents environnements qui ont prévalu à la surface de Mars. Et donc en parallèle, effectivement, ça nous apprend pour le retour d'échantillons, donc c'est un peu un début majeur de ces prochaines missions, c'est essayer de caractériser à l'échelle microscopique certains de ces échantillons et de ramener ces échantillons s'ils sont intéressés, notamment s'ils ont intérêt pour comprendre l'origine de la vie vie il y a eu sur Mars. Et donc, au-delà de ça, ça nous permet en fait de développer des sous-systèmes qui permettront éventuellement de ramener ces échantillons et éventuellement de préparer l'arrivée, de bien connaître en fait l'environnement martien de manière à préparer les explorations par des hommes.
Donc alors, on parle beaucoup de Mars, mais c'est vrai qu'on ne se pose pas souvent la question des difficultés qu'on pourrait avoir à aller sur cette planète. Madame Sourbès-Verger, votre avis sur ce point ?
Les difficultés, elles sont énormes, sans parler de celles d'arriver et de repartir. Donc déjà, il faut protéger les hommes, puisque je crois que vous refaites de l'exploration habitée, là. Hein. Donc effectivement, si on reparle des hommes, la grande question, c'est comment permettre à des hommes de vivre pendant un trajet qui, dans le meilleur des cas, va faire 6 mois, avec un blindage suffisant et donc une très grosse masse sur le vaisseau pour leur permettre de résister aux radiations. Alors vivre 6 mois en orbite, ça, il y a des Russes qui ont vécu un an dans la Station Spatiale Internationale, donc maintenant on a une petite idée de la manière dont l'organisme réagit, mais la Station Spatiale Internationale, elle est ravitaillée régulièrement. Et donc vous avez des vaisseaux Progress qui montent avec ce qu'il faut, les pièces pour réparer la station, de l'eau, etc., etc., même s'il y a des systèmes de recyclage à bord et même s'il y a un petit effort pour essayer de rendre la station un minimum, sinon autonome, du moins capable de subvenir à ses besoins. Donc ça, du tout, on ne sait pas du tout le faire sur un voyage de 6 mois sans ravitaillement. Et puis, effectivement, c'est quand même la grande question, une fois arrivé sur Mars, une fois posé, qu'est-ce qu'on trouve sur Mars ? Alors, on le voit bien dans les films de science-fiction, eh bien, c'est les missions précédentes qui auront ramené un générateur, qui auront commencé à faire pousser des plantes, etc., etc. Très bien. Et puis après, il faut repartir. Et le minimum pour qu'on se retrouve dans une configuration relativement favorable de temps de retour vis-à-vis de la Terre, ça fait encore à peu près 6 mois. François Poulet me corrigera si je me trompe. Et donc, 6 mois de retour et vous arrivez à quelque chose entre 18 mois et 2 ans. Et ça, aujourd'hui, on n'est absolument pas capable de faire vivre des hommes en autonome pendant toute cette durée, sans parler de la taille du vaisseau. Bon, alors on imagine qu'on pourrait amarrer des modules en orbite à travers plusieurs lancements, un peu comme on a monté la station spatiale. Mais enfin, tout ça est quand même très très compliqué, très coûteux. Et moi, j'en reviens à la grande question qui est qu'est-ce que des hommes sur Mars sauraient faire que ne sauraient pas faire des robots par rapport à la différence de coût financier que ça va représenter. Alors, j'entends bien que la signification est pas du tout la même que d'envoyer un robot ou d'envoyer un homme. Je pense que ça n'a pas la même valeur symbolique, mais quelque part, les lois de l'économie jouent aussi, y compris dans des moments où on pense peut-être plus à avoir une planète durable qu'à aller comme ça sur Mars pour des sommes qui vont être astronomiques.
Monsieur François Poulet, Vous voulez compléter ?
Oui, je veux bien. Il y a deux points. Alors, j'ai commencé ma carrière, vous l'avez dit, en 2002. Et donc, je faisais partie d'un groupe de réflexion implémenté par la NASA en 2010 pour réfléchir à l'exploration spatiale martienne par l'homme. Et ils envisageaient de l'envoyer l'homme en 2030. Donc là, 10 ans à peu près après, on a pris au moins 10 ans, voire 20 ans. Donc vous voyez un peu l'évolution en fait de la réflexion et de la difficulté que représente en fait d'envoyer l'homme sur Mars. Bon, d'un autre côté, ils se préparent petit à petit. Moi, j'ai eu un contrat en fait avec la NASA pendant ces 2 dernières années pour justement estimer les ressources en eau, parce que par exemple, on pense à ça. Donc à partir de l'estimation en fait de certaines compositions de certaines roches martiennes, on peut estimer la quantité d'eau et donc on peut estimer quelles seraient les ressources de certains endroits à la surface de Mars et donc comment et ensuite ça implique de créer un système d'extraction d'eau à partir de ces roches. Donc on voit que quand même ils essaient de mettre en place en fait de préparer cette exploration spatiale martienne. C'est nouveau, ça fait quelques années seulement qu'il y a ces programmes-là, des appels d'offres auxquels les scientifiques répondent. C'est essentiellement les scientifiques qui peuvent répondre. En parallèle, il y a aussi un appel d'offres au niveau technologie. Je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui ont répondu également pour développer des sous-systèmes pour l'exploration spatiale humaine. Donc je dirais que par rapport à il y a 10 ans, on s'est rapproché. Alors pas beaucoup, mais on s'est rapproché un petit peu. Moi, dans tous les cas, je soutiens à fond. Alors ça peut paraître bizarre pour un scientifique, mais moi je suis à fond pour l'exploration spatiale humaine. On a des retours d'expérience, par exemple sur Terre, évidemment. Ce qui s'est passé, c'est même la Lune aussi. On peut revenir là-dessus, mais tout simplement par rapport à Mars. Donc on a envoyé en fait, on a simulé en fait des observations faites par un robot dans un site terrestre mais analogue martien par des robots. Donc on a exploré pendant 3 semaines ce site par des robots à partir évidemment de données recueillies par un système de communication. Et ensuite on a envoyé un homme, un géologue en fait, tout simplement un astronome géologue sur place. Et la collecte d'échantillons était complètement différente. Donc, alors il y a eu certains aspects qui étaient similaires, mais l'essentiel en fait des roches qui étaient intéressantes ont été découvertes par l'homme, pas par le robot, puisque c'est un robot quand même. Donc on n'observe pas exactement la même chose avec un œil humain, on n'a pas la même expérience. Donc d'une certaine manière, on sait que si on envoie un homme sur Mars, on en apprendra énormément, beaucoup plus qu'avec des dizaines de robots. Donc c'est pour ça, d'une certaine manière, et puis au-delà de l'aspect évidemment que je vous ai dit, l'intérêt qui dépasse largement l'aspect scientifique, j'espère qu'un jour je verrai l'homme sur Mars.
Mais donc du coup, vous souhaitez voir l'homme sur Mars, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de survivre aussi bien physiologiquement que psychologiquement au voyage ?
Alors, comme Isabelle l'a souligné, c'est extrêmement difficile. Alors c'est pareil, moi il y a quelque chose, peut-être une position qui n'est pas forcément celle d'autres collègues, mais il faut accepter le risque. Quand on fait du spatial, il faut accepter le risque. Quand on fait du spatial, moi, je travaille que sur des systèmes robotiques. On a des échecs, c'est difficile à porter. On travaille 10 ans sur une mission, on a un échec. Ça fait partie de la vie. Voilà. Et je pense que c'est pareil pour les hommes. Il faut que les hommes acceptent de perdre des vies humaines pour aller explorer des continents. Enfin, ils ont accepté ça pendant des siècles. On l'a accepté aussi pour aller sur la Lune, même dans l'espace, tout simplement. Et donc, il faut accepter aussi d'avoir des pertes humaines pour aller sur Mars. Et c'est pour ça que moi, je pense que toutes ces affaires de radiation, c'est presque secondaire d'une certaine manière, puisque les gens, vous trouverez toujours des gens qui seront extrêmement compétents, qui seront prêts à aller sur Mars. Ils connaissent les risques. Les gens, quand ils vont sur un terrain de guerre, ils connaissent les risques. Ils savent qu'ils peuvent ne pas revenir. C'est pareil. Hein, si un jour on va sur Mars, on sait qu'on aura peut-être, ils ne reviendront pas. Donc, mais je pense qu'il faut que la société apprenne à avoir des risques, à prendre des risques pour explorer des nouveaux mondes.
Il y a deux choses, c'est effectivement une chose des explorateurs, et bon, on peut, là on est tout à fait d'accord, on peut citer par exemple la reprise des vols de navettes où les astronautes disaient, mais enfin, on fait un métier à risque, on ne conduit pas un train ou un autobus, donc il y a un moment, nous on sait qu'on risque notre vie en reprenant la navette et même en prenant la navette tout court. Là-dessus on est d'accord. Le problème c'est que sur Mars, vous avez quand même, si on se réfère à Elon Musk ou d'autres, l'idée de faire des colonies, c'est-à-dire de faire vivre des gens et de banaliser un petit peu cette exploration. Alors si c'est pour faire la même chose que sur la Lune, on en envoie 14 personnes et puis après on s'arrête, oui effectivement on trouvera très très facilement bien plus de 14 personnes qui sont prêtes à prendre le risque d'aller sur Mars. Ça, là-dessus j'ai aucun doute. Mon petit problème c'est que, bon mais c'est peut-être mon côté terre à terre on va dire, quelque part la géographie on est un peu comme ça aussi, mais ce que je veux dire c'est que si vous prenez l'expérience d'Apollo, il y a eu un seul géologue et tous les autres, ils n'étaient pas géologues. Et quand on voit, la superficie qui pouvait être couverte, de toute façon, on a encore... Alors, les échantillons lunaires n'ont pas un intérêt fabuleux, on est d'accord, mais là, les Chinois vont ramener des échantillons de la face cachée. Bon, bah, effectivement, on n'a jamais envoyé l'homme jusqu'à maintenant sur la face cachée. Donc, tout ça, c'est globalement, la question de savoir pourquoi et comment on a convaincu un politique, des médias et des opinions publiques de financer, parce que quand même la grande question pour aller sur Mars, c'est le coût que ça va représenter. À un moment, le budget de la NASA, c'est à peu près, bon an, mal an, on va dire 20 milliards de dollars, hein, pour vous donner une idée. L'ensemble du budget européen, ESA, plus tous les pays européens confondus, plus un petit peu de l'Union européenne, on est autour de 10 milliards. Donc on est déjà très en dessous. Donc le budget de la NASA, c'est moins que le budget spatial militaire. Donc au total, vous imaginez bien la totalité des technologies et de l'investissement qui est réalisé par l'État américain. Donc on est à 45 milliards de dollars. Donc je repars sur la NASA, 20 milliards de dollars, 10 milliards, la moitié, qui servait pour la station spatiale et pour la navette. Donc si vous voulez, si vous avez la moitié de votre budget, et on ne parlait que de la station spatiale, pas de la Lune, pas de Mars. Donc je pense que quelque part, si vous avez un budget complètement extensible, il n'y a aucun problème. Tsiolkovsky disait déjà, la Terre est le berceau de l'humanité, mais a-t-on jamais vu un homme passer sa vie dans son berceau? Là, on va tous être d'accord, et je pense que c'est une expérience qui est fascinante pour tout le monde que d'imaginer un homme sur Mars. Maintenant, en l'état actuel des choses, et compte tenu éventuellement des progrès de l'intelligence artificielle, des progrès de la robotique, est-ce que finalement on ne verra pas des robots pilotés à distance? Je sais bien qu'il y a un temps de délai entre la Terre et Mars, mais on pourrait aussi imaginer des stations entre deux. Enfin bon, c'est moi, ce qui me laisse un tout petit peu perplexe, c'est la motivation politique qui déclenchera les dollars qui seront absolument nécessaires pour aller sur Mars.
Alors, on entend donc beaucoup parler, comme on l'a dit, de la conquête vers Mars, mais aussi parler des satellites de Saturne. Avec la sonde Cassini qui nous a quittés malheureusement il y a plusieurs mois déjà, car elle était en fait donc envoyée sur la planète Titan pour effectuer des recherches et des analyses. Et Madame Isabelle Sourbès-Verger, quels sont les avantages en fait de ces satellites comme Titan, et est-ce qu'on pourrait rêver de l'homme sur ces satellites ?
Alors là, je pense qu'effectivement, l'homme sur ses satellites, ça paraît quand même vraiment très 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 compliqué, et je doute qu'on ait véritablement besoin d'envoyer des hommes. Là, très honnêtement, je pense que ça relève plutôt de la compétence de François Poulet que de la mienne.
Oui, ben, je suis d'accord avec toi, Isabelle. Je pense que là, on est plutôt dans la phase d'exploration scientifique, de connaître mieux ce satellite. Je pense à Titan notamment, mais il y a aussi un autre satellite qui est très intéressant qui s'appelle Encelade, et qui a montré en fait une activité de structure interne très importante. Donc ces deux satellites, effectivement, d'un point de vue scientifique, sont assez extraordinaires. Et donc là, actuellement, il y a eu, on va dire, les survols par les sondes voyageurs qui ont permis de montrer l'intérêt majeur de Titan. Grâce à Cassini, on a pu montrer que Titan restait un objet très intéressant. Toute proportion relative par rapport à Mars, il faut quand même savoir que la température moyenne à la surface de Titan, c'est moins 180 degrés, et avec 100 fois moins de lumière que sur Terre. Donc vous voyez la difficulté en fait, par exemple, d'explorer ce type d'objet. Par ailleurs, alors Encelade, lui, est un objet qui s'est révélé extrêmement intéressant, à la grande surprise de plusieurs scientifiques, de toute la communauté. À savoir qu'on pense qu'il y a un océan donc en sous-sol, ou en tout cas des poches d'eau liquide dans le sous-sol d'Encelade, et donc c'est pour ça que le système de Saturne son intérêt est devenu très important après l'exploration par Cassini. Mais pour revenir à votre question, avoir des hommes sur Titan, je pense que là, non, ça sera très très difficile. On ne le verra pas, et je pense que vous non plus, vous ne le verrez pas, même si vous êtes plus jeune que moi. Il faut savoir qu'il y a une mission qui a été sélectionnée par la NASA récemment, l'année dernière, qui s'appelle Dragonfly. Donc c'est une espèce de... ça veut dire libellule en français. Et donc c'est un drone qui va pouvoir explorer les zones, donc à la fois la surface, mais également les couches basses de l'atmosphère de Titan, qui présentent un intérêt puisqu'ils ont, a priori, ils sont composés de matériaux organique assez complexe, même s'il faut le dire que la mission Cassini a montré qu'on s'attendait à avoir des composés organiques plus intéressants. Cet objet reste quand même très intéressant, notamment par la présence de lacs d'éthane. Donc, je dirais que ce satellite donc, est un des objectifs majeurs de l'exploration spatiale planétaire. Et donc, je suis très content de voir que les agences s'intéressent encore beaucoup à ces deux objets, enfin Encelade, Titan et le système de Saturne globalement.
Mais donc, du coup, pour aller donc toujours plus loin, et notamment sur les satellites de Saturne et donc tous ces objets scientifiques, quelles sont les inventions qui sont aujourd'hui développées et jusqu'où peut-on aller grâce à ces inventions ?
Alors, comme je l'expliquais, on a très peu d'énergie solaire, parce qu'il faut savoir que l'essentiel des satellites utilisent ce genre de système, donc des panneaux solaires pour produire l'énergie. Pareil sur certains robots. Alors, les robots martiens américains, eux, ils ont commencé à développer une pile nucléaire, on appelle ça comme ça. Et c'est ce qui va être utilisé, c'est ce qui a été utilisé pour Cassini et ce qui va être aussi utilisé pour la prochaine mission de la NASA, la Dragonfly dont je vous ai parlé. Donc ça, on voit bien que c'est un intérêt majeur. Alors, il y a aussi un autre intérêt, on revient au début de l'émission sur les lanceurs, à savoir qu'ils veulent développer un lanceur très puissant. J'ai oublié le nom, peut-être Isabelle pourra me rappeler en fait le nom de ce lanceur plus tard. Voilà, SLS. Ouais. Et donc, ce lanceur a une capacité en fait très importante, donc avec une vitesse, on peut avoir un delta V, ce qu'on appelle donc la puissance en gros pour arriver à votre destination et ralentir suffisamment parce que évidemment c'est des vitesses hyperboliques, donc il faut être capable de ralentir. Donc ils ont réussi en fait, enfin ils souhaitent envoyer explorer en tout cas le système solaire externe. Donc là effectivement on parle des orbites largement au-delà de Mars, donc Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, où là effectivement le gros souci actuel c'est la durée de la croisière, la phase de croisière qui dure plusieurs années, voire 8 ans. Par exemple, moi je travaille sur une mission de l'ESA qui s'appelle JUICE, qui va aller explorer le système jovien, donc le système de Jupiter. On va mettre 8 ans pour arriver là-bas. Donc grâce en fait avec ce nouveau système SLS, il devrait mettre, si je m'en souviens bien, c'est 3 ans je crois pour arriver sur Titan. Donc on voit en fait l'intérêt par exemple de développer aussi des lanceurs plus importants qui pourront aller de manière plus rapide explorer le système solaire externe.
Je vous remercie pour notre débat qui prend fin. Merci Monsieur François Poulet, merci Madame Isabelle Sourbès-Verger. L'espace nous réserve donc encore bien des mystères, mais nous apparaît déjà comme beaucoup plus familier qu'il y a quelques années. Une chose qui en revanche nous apparaît toujours de moins en moins familière, ce sont les mises à jour de notre ordinateur. En effet, nous avons tous déjà été bloqués devant celui-ci pendant de nombreuses minutes, sans véritablement comprendre pourquoi notre meilleur ami se mettait à jour. Lou va nous apporter des réponses sur ce sujet dans sa chronique.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris.
Nous nous sommes tous retrouvés comme des cons devant un ordinateur inutilisable et ce pendant de longues minutes, voire de longues heures à cause d'une banale mise à jour. Je dis ordinateur, hein, mais ce pourrait très bien être votre smartphone, ce qui est d'autant plus contraignant. Mais ce rapport amour-haine entre les mises à jour et nous, est-il vraiment justifié ? Car après tout, les mises à jour sont là pour redonner une nouvelle jeunesse à votre meilleur ami, comme le dit si bien Guillaume. Le problème de celle-ci, c'est que l'on ne se rend pas bien compte de la nécessité qu'il y a à appuyer sur le bouton « Update ». Parce que, tout d'abord, la mise à jour apporte des modifications légères à un outil informatique, mais elle est avant tout nécessaire à la sécurité de votre ordinateur. Et oui, mes petits amis, ne pas mettre à jour ses écrans, c'est s'exposer à des risques de piratage. Ce sont donc avant tout des failles de sécurité de logiciels, failles qui peuvent être exploitées par des cybercriminels que ce long processus cherche à combler. Car un logiciel qui ne nécessite aucune mise à jour est un logiciel dangereux, rappelez-vous bien de cela. Dans une époque où l'innovation technologique est toujours plus prégnante et surtout plus rapide, il devient impensable de ne pas repenser un logiciel. Partez donc du principe qu'aucun logiciel n'est définitif. Ou bien vous êtes fait complètement avoir en termes de sécurité. Il n'est pas définitif. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des noms de systèmes à rallonge avec un milliard de chiffres. Windows, par exemple, en est aujourd'hui à sa 10e version, version qui a elle-même subi 9 mises à jour majeures. C'est pourquoi l'on parle aujourd'hui de Windows 10 2004. Il faut d'ailleurs distinguer tout de même deux types de mises à jour. Celles que l'on peut traduire par « update », donc littéralement en français « mise à jour », et les « upgrades », qui sont en fait des mises à niveau. Par exemple, votre logiciel Windows passe d'une version 1.0 à 1.1. La modification est ici légère. Il s'agit bien d'une mise à jour, c'est-à-dire d'une actualisation du logiciel, afin de corriger quelques erreurs minimes. Cependant, en ce qui concerne les mises à niveau, on a pour le coup affaire ici à une modification lourde, à un remplacement du logiciel précédent. Pour reprendre notre exemple de Windows, on passera d'un logiciel 1.0 à 2.0. Il y a là un changement de version. Dans ce cas de figure, l'objectif est de corriger des erreurs majeures, voire de retirer ou d'ajouter certaines fonctionnalités au logiciel upgradé. Mais en temps normal, ne vous en faites pas, ce sont ici des mises à jour payantes, car apportant une véritable modification, voire une véritable amélioration à votre ordinateur. Vous ne vous retrouverez donc pas avec une mise à jour intempestive, non désirée, de ce côté-là. Pour vous y retrouver simplement, la plupart des éditeurs de logiciels utilisent deux parties dans la numérotation. La partie majeure, 1, 2, 3, 4, etc., qui indique le degré d'évolution du produit et les fonctionnalités qu'il contient. La partie mineure vient ensuite. 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, etc. Cette partie-là renvoie aux multiples corrections de bugs. Mais par moment, l'on peut aussi trouver une troisième numérotation à la suite des deux autres. La Relays, ou le numéro Bold. Là, je m'adresse aux connaisseurs. Ce numéro est surtout utilisé par les développeurs pour pouvoir s'y retrouver. Et un numéro bold renvoyant à une fonctionnalité précise. Maintenant qu'on a posé le cadre, qu'on a fait le tour explicatif de la chose, il est à noter que certaines mises à jour ne servent pas forcément notre intérêt. Vous souvenez-vous de la mise à jour de Windows d'avril 2018 ? Elle a fait totalement planter certains ordinateurs. Moralité, de nombreux utilisateurs se sont retrouvés avec des outils informatiques inutilisables. Pire, certains ont dû engager des frais de dépannage sans que la plateforme ne les rembourse. Apparemment, le problème était dû à une modification, en particulier la mise à jour KB4467682. Il a donc fallu, pour les utilisateurs de Windows, désinstaller cette dernière, tout en attendant que sorte 6 mois plus tard le correctif permettant d'éliminer tous les bugs liés à son installation. Ironie du sort, ce plantage concernait spécifiquement certains appareils, dont le propre produit de Microsoft, la Surface Book 2.
L'atome de savoir sur Radio Campus Paris.
C'était la chronique de Lou qui nous a expliqué pourquoi notre ordinateur fait des mises à jour. Merci à tous d'avoir suivi l'Atome de Savoir sur Radio Campus Paris, l'émission qui parle de science et de technologie sans en faire un fromage. Je tiens à remercier Johanna Blin qui est notre attachée de production et Bruno Liuzzi qui est notre réalisateur. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de Radio Campus Paris. À dans un mois et d'ici là, portez-vous bien.